RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Martin Guez.
Et bonne journée, bonne semaine même, Julia Coquel-Rohem. À la une, Donald Trump qui estime ce matin que la Jordanie et l'Égypte devraient accueillir davantage de Palestiniens. Le président américain qui veut faire le ménage à Gaza selon ses termes et qui doit s'entretenir aujourd'hui avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Au Liban, au moins un mort et 17 blessés lors de tirs de l'armée israélienne. En cette journée qui doit pourtant marquer le retrait israélien du sud Liban. En RDC, les combats se poursuivent autour de Goma entre le M23 et l'armée congolaise. Et le conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce dimanche en urgence. Enfin, les navires de croisière ne sont pas les bienvenus à Nice. Victoire pour les élus et associations écologistes de la région. Donald Trump dit vouloir faire le ménage à Gaza et a dit vouloir envoyer les Palestiniens de ce territoire vers l'Égypte et vers la Jordanie, temporairement ou à long terme, selon ses mots. Washington qui se disait pourtant opposé au déplacement forcé de Palestiniens l'an dernier. Mais le nouveau locataire de la Maison Blanche s'est entretenu avec le roi Abdallah de Jordanie et doit donc ce dimanche échanger avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'Égypte qui a par ailleurs accueilli 70 prisonniers palestiniens libérés ce samedi dans le cadre de l'accord de trêve signé la semaine passée entre Israël et le Hamas. 4 otages israéliens libérés contre 200 prisonniers et parmi eux donc 70 ont été envoyés en Égypte. Correspondance au Caire d'Alexandre Puccenti.
Les prisonniers palestiniens qui faisaient le V de la victoire ont quitté le point de passage israélien de Kerem Shalom pour être embarqués côté égyptien dans 2 bus vers Rafah. Ils ont été accueillis côté égyptien par des médecins et des ambulances et ont pris la route de l'hôpital d'Al-Arish, la capitale du Nord Sinaï. Après un examen médical, les cas nécessitant des soins d'urgence seront traités sur place. Les Palestiniens obtiendront ensuite des papiers d'identité fournis par l'ambassade palestinienne au Caire. Les États qui les accueilleront, on parle du Qatar et surtout de la Turquie, leur fourniront ensuite des laissez-passer pour entrer dans leur territoire. Selon des sources égyptiennes, ce processus devrait durer 72 heures et tous les ex-prisonniers palestiniens devraient avoir quitté l'Égypte dans un laps de 3 jours, a-t-on précisé au Caire. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Israël, par ailleurs, qui accuse à l'instant le Hamas de 2 violations de l'accord de trêve. Une civile n'a pas été libérée comme prévu et la liste des otages morts ou vivants n'a pas été soumise. C'est ce que dénonce le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un communiqué. Au Liban, l'armée israélienne qui a ouvert le feu sur des habitants qui ont tenté d'entrer dans un village du sud. Au moins une personne est morte et 17 autres ont été blessés. Alors que ce dimanche 26 janvier marque pourtant le 60e jour de l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah, date initialement fixée pour un retrait total des troupes israéliennes, le délai est donc expiré et l'armée libanaise accuse Israël de tergiverser et de ne pas respecter le calendrier. Le président français Emmanuel Macron a lui appelé les parties prenantes à honorer leurs engagements dans les plus brefs délais. En République démocratique du Congo, Kinshasa rappelle ses diplomates à Kigali avec effet immédiat les combats qui se poursuivent autour de Goma entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. Et ce matin, des affrontements éclatés sur le front nord à Kibumba. Au moins 13 soldats étrangers dont 3 casques bleus ont été tués ces derniers jours. Alors que le porte-parole de l'armée congolaise a affirmé hier que le Rwanda était déterminé à s'emparer de Goma. Sylvain Kenge, qui est aussi revenu sur les circonstances de la mort du général Peter Chirawani, gouverneur militaire du Nord Kivu, compte rendu à Kinshasa de Passion Ligoni.
Le général Sylvain Ekenge a annoncé que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a été abattu par un sniper de l'armée rwandaise alors qu'il accompagnait le commandant de la 34e région militaire pour galvaniser les troupes à Mubambiro près de la cité de Sake. Un de ses gardes du corps a également été tué tandis que 2 autres ont été blessés mais sont hors de danger. Concernant la situation sur le terrain, le porte-parole des forces armées de la RDC a indiqué que les combats autour de Goma se poursuivent. Avec l'appui de la MONUSCO et des troupes de la SADC, le FARDC ont réussi à stopper, a-t-il dit, l'avancée des forces rwandaises et du M23 tout en affirmant que le FARDC ne les laisseront pas entrer à Goma. Dans le sud Kivu, les combattants du M23, a-t-il dit, ont tenté de progresser vers Niamibwe à environ 100 km de Goma mais ont été stoppés. Toujours selon le général Ekenge, les opérations se poursuivent. Face à l'ultimatum de 48 heures donné par le M23 au FARDC, le général a répondu avec fermeté, c'est maintenant que la guerre commence. Enfin, sur le plan diplomatique, le ministère congolais des Affaires étrangères a annoncé le rappel de ses diplomates basés à Kigali avec effet. Il demande aux autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision en cessant, dans un délai de 48 heures, toutes les activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
L'actualité africaine toujours au Soudan, cette fois. 67 personnes ont été tuées hier dans une attaque de drone contre l'un des derniers hôpitaux en activité de la ville d'El-Fasher, située dans la région du Darfour et assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. On y revient tout à l'heure avec le dernier journal de la matinée de Nemo en piste dans une grosse vingtaine de minutes. RFI 11h05 à Minsk, élection présidentielle ce dimanche en Biélorussie avec 5 candidats, mais sans grand suspense. L'autocrate Alexandre Loukachenko, qui devrait rempiler pour 5 ans au pouvoir depuis 1994, le président biélorusse de 70 ans qui brigue un 7e mandat. Loukachenko, allié sans faille de Vladimir Poutine, qui n'a pas de véritable adversaire dans ce scrutin. Il faut dire que l'opposition a déserté le pays, notamment suite à la répression lors du dernier scrutin en 2020. L'opposition qui appelle d'ailleurs les Biélorusses à ne pas se rendre aux urnes, comme l'explique Ekaterina Pearson-Lihina. Elle est chercheuse en sciences politiques et sociales à l'Université libre de Bruxelles.
C'est une opposition qui n'appelle pas les citoyens biélorusses à se mobiliser parce que c'est une opposition qui trouve ça irresponsable d'appeler les citoyens à protester dans un contexte où c'est très risqué. Ils peuvent être arrêtés à tout moment. Donc c'est une opposition qui se focalise en fait sur la non-reconnaissance des résultats de ces présidentielles dans les pays occidentaux. Il y a déjà eu plusieurs chancelleries occidentales qui, par exemple le Parlement tchèque, qui ont déclaré qu'ils ne vont pas reconnaître les résultats de cette élection.
Est-ce que vous pensez quand même qu'on peut s'attendre à ce que des gens sortent dans la rue et manifestent ?
C'est très peu probable cette fois-ci, à cause de la répression, à cause aussi du contexte géopolitique. Donc je pense qu'il y a très peu de chances de voir des mobilisations.
Des propos recueillis au micro RFI de Romain Lemaresquier, Alexandre Loukachenko, qui est aussi notre Européen de la semaine, portrait à lire sur notre site internet www.rfi.fr. Visite historique ce dimanche du chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à Kaboul. Il s'agit du plus haut responsable iranien à se rendre en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Les deux voisins qui partagent une frontière de 900 km et si Téhéran a maintenu son ambassade à Kaboul, l'Iran ne reconnaît toutefois pas le nouveau pouvoir en place. Abbas Araghchi qui doit rencontrer des responsables afghans alors que le flux de migrants vers l'Iran a significativement augmenté ces trois dernières années. 6 millions de réfugiés afghans vivent actuellement en Iran. La Corée du Nord a testé plusieurs missiles de croisière stratégique lancés depuis la mer. C'est ce qu'annonce l'agence de presse d'État, ajoutant que les missiles avaient atteint leur cible avec précision. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, qui s'est félicité du perfectionnement des moyens de dissuasion de son armée, lui qui a assisté à ces tests ce samedi. Et puis on termine ce journal en France, où les bateaux de croisière sont dans le viseur des autorités. Dans le sud du pays, le maire de Nice, Christian Estrosi, a signé un arrêté interdisant les escales de ces énormes paquebots dans les eaux de sa métropole. Des navires pointés du doigt pour leur impact sur l'environnement, Camille Sassé-Douruiz.
C'est un combat qu'il mène depuis plusieurs années. Alors cette annonce est une immense victoire pour les élus écologistes de la ville. Juliette Chesnel-Leroux, présidente du groupe écologiste à la mairie de Nice, salue un tournant pour la préservation de l'environnement, car il y avait urgence.
Les émissions des résidus de combustible fioul lourd sont terribles pour la santé, pour la qualité de l'air, pour la qualité des eaux marines et donc pour la biodiversité.
Ces imposants bateaux de croisière polluent autant en circulation qu'à l'arrêt. Une pollution nocive pour tout un berceau d'espèces marines endémiques comme des barracudas ou ce qui est considéré comme le poumon bleu de la Méditerranée, l'herbier de Posidonie. Hélène Granouillac est fondatrice de l'association de protection marine Terre Bleue.
C'est une plante marine qui en fait, l'abri où les animaux se nourrissent, se reproduisent, se protègent, etc. Sans elle, c'est pas possible que la Méditerranée survive. Et les encres marines, on le sait, sont vraiment, on va dire, le fléau de la Posidonie. Donc, moins de bateaux, ça sera certainement un soulagement.
Reste que Terre Bleue dénonce une décision trop soudaine, sans concertation avec les secteurs concernés. L'économie locale pourrait en pâtir, alors pour être durable, l'association préconise une transition écologique plus inclusive.
Explication signée Camille Salcedo-Ruiz, loin de la Terre Bleue niçoise, celle de l'Open d'Australie, où se dispute dans quelques minutes la finale du premier grand chelem de la saison de tennis. L'Italien Yannick Sinner, tenant du titre, qui affrontera la tête de série numéro 2, à savoir l'Allemand Alexander Zverev. À suivre aussi ce dimanche la suite de la 21e journée de Liga, c'est du football. Et en point d'orgue, un match entre clubs historiques, le Barça qui reçoit Valence dans la soirée, les Catalans qui pointent à 10 longueurs du Real après le succès madrilène 3-0 hier contre Valladolid sur un triplé de Kylian Mbappé. Et puis en première ligue, à noter ce choc entre Manchester City et Chelsea, la belle victoire des Sky Blues 3-1 face aux Blues. Le sport a retrouvé également à 16h10 temps universel ce dimanche avec Mondial Sport et Hugo Moissonnier. Voilà, c'est la fin de ce journal sur RFI. Excellente journée à notre écoute.